On se dit tout sur France Bleu, Vanessa Lambert.
Bonsoir à tous, je suis très heureuse de vous retrouver comme tous les soirs pour notre rendez-vous de confidence, d'échange, de papotage. Chaque soir, un sujet, chaque soir, vos histoires, vos expériences. Et ce soir, on va parler du financement participatif, très en vogue en ce moment. On l'appelle aussi le crowdfunding, une façon de collecter des fonds via une plateforme internet pour permettre à un ensemble de contributeurs, c'est comme ça qu'on les appelle, de choisir collectivement de financer certains projets. Je ne sais pas si je suis très claire, mais vous allez voir, ça le sera beaucoup plus tout au long de l'émission grâce à vos témoignages. L'idée avait commencé pour l'industrie musicale. Les contributeurs devenaient aussi en quelque sorte des producteurs. Aujourd'hui, on voit des financements participatifs pour un petit peu tout. Parfois n'importe quoi, on peut le dire aussi. Mais est-ce que ça marche vraiment? Que deviennent les contributeurs dans le projet? Est-ce que ça fait de la concurrence aux banques? On va en parler grâce à vous jusqu'à 22h sur France Bleu.
Vos témoignages, vos expériences. Ce soir, on se dit tout sur France Bleu avec Vanessa Lambert.
Et ce soir, on se dit tout sur le financement participatif ou comment réaliser ces projets grâce à de multiples financeurs, des gens qu'on connaît, mais pas toujours d'ailleurs. Ce soir, on écoute vos histoires, vos expériences par rapport à tout ça et on va commencer cette émission en parlant de musique avec Benjamin en Bretagne. Bonsoir Benjamin.
Bonsoir.
Alors vous, vous avez pu sortir votre quatrième album avec votre groupe grâce au financement participatif, c'est bien ça?
Ouais, voilà, c'est ça. On a fait comme pas mal de groupes en ce moment parce que la musique, c'est pas forcément un commerce très très florissant. C'est plus quelque chose de pour les passionnés et c'est vrai que le financement participatif est un modèle qui marche excessivement bien pour la musique.
Alors au départ d'ailleurs, ça a commencé comme ça, hein, le financement participatif, c'était dans la musique. Les contributeurs qui aimaient un projet devenaient un petit peu producteurs de l'artiste. Vous avez cette notion-là aussi, c'est-à-dire que les gens qui ont participé se sentent un peu investis dans votre musique?
Ça, je ne sais pas trop s'ils ont ressenti ça comme ça, mais c'est plutôt un coup de main, quoi. C'est plutôt... Tiens, regarde, il y a un projet intéressant, si c'est quelque chose qui peut te brancher, ou même pas forcément, au départ, c'était pas forcément la musique qui te branche au départ, mais regarde, ça vaut le coup, c'est des gens bien, ils font un truc sympa. Et puis, après, la notion de production, c'est quelque chose comme de... Enfin, pour moi, c'est particulier en musique, c'est quand même, ça peut être c'est une notion esthétique aussi. Alors que là, on est plus sur quelque chose qui est lié presque au hasard avec les réseaux sociaux.
Oui, on sait pas du tout combien on va récolter à la fin, en fait. C'est un petit peu, allez, on lance une bouteille à la mer et on verra bien ce que ça va donner.
Bon, dans les faits, on essaie de comme calibrer le truc correctement, quoi. Parce qu'on se dit, enfin, nous, par exemple, sur notre modèle à nous, si on avait demandé 20 000 euros, on n'y serait jamais arrivé. Après, on se dit, voilà, on va faire une offre un peu cible au milieu. C'est-à-dire que vous commencez avec des offres à 5 ou 10 euros qui sont un petit peu, bon, les premières pour... comme dans les grandes surfaces, quoi, il y a des produits d'appel.
Ouais, c'est ça.
Et puis après, il y a des offres un peu dingues à 500 euros ou 1000 euros. On dit, voilà, on va faire un concert chez vous.
Et ça, il y en a eu des gens qui vous ont acheté?
Non. Non, le concert, non, ça, on n'a pas eu, nous.
Mais il y a eu des gens qui ont donné des grosses sommes ou ça a été plutôt des petites contributions, mais beaucoup?
Je pense qu'on a bien calibré notre truc parce qu'on avait fait une offre, c'est ce que je disais, une offre à peu près cible autour de 30-35 euros, je crois. Où on vendait justement le disque vinyle plus quelques petites bricoles. Et c'est cette offre-là qui a le mieux marché. Et en fait, il en fallait à peu près 40-50 et ça commençait à être vraiment, vraiment viable. Ça a bien marché parce que c'est l'offre qui a le mieux fonctionné. Et c'est ce qui donne un peu le ventre du
projet, ouais.
Du financement global.
Moi, ce que j'aime bien dans votre démarche, c'est que les gens qui ont participé, il y avait quelque chose en retour. Il y avait pour la plupart l'album aussi. Aujourd'hui, on est tombé un petit peu dans une méthode de financement. Donnez-nous de l'argent, on fait un truc et puis merci, au revoir. Ça, c'était important aussi qu'il y ait une reconnaissance et un remerciement pour les gens qui avaient contribué.
Ah ouais, je pense même que ça aurait pas du tout marché sinon, parce que, enfin, surtout en... quand c'est un financement de musique, on est presque comme un achat normal. On est vraiment tout près d'un achat de gens qui aiment la musique. Ben tiens, je vais acheter un disque. Sauf qu'au lieu d'acheter un disque dans un magasin, je l'achète, mais je l'aurai dans un an. Et avec une formule un peu améliorée. Et ce qui est super pour la musique, en tout cas, c'est que vous parlez à des passionnés qui sont souvent friands de chansons bonus ou de petits singles en plus, voilà, de tous les artefacts qu'il peut y avoir autour de la musique, les t-shirts, les posters, les machins. Et quand on fait un financement participatif, on sait qu'on va s'adresser à ces gens-là qui qui ont une relation un peu charnelle avec la musique. Et nous, ça nous a permis de faire un vinyle, ce qu'on n'aurait jamais pu faire sinon. Et moi, ce que j'en retiens, c'est que ça donne l'occasion aux gens passionnés de financer les gens passionnés, et donc d'être sur des produits, parce qu'on parle quand même de produits et de marketing, et qui sont plus valorisants, valorisables, qui sont beaucoup plus chiadés, en fait. Quoi.
Ouais. Et les gens qu'on donnait, c'est des gens que vous connaissez, c'était des fans de votre parcours, ou il y a eu aussi des gens que vous ne connaissez absolument pas, qui sont venus se greffer un petit peu sur le projet?
Il y avait des gens du 2e, 3e cercle, ouais, c'est vrai qu'on aurait dit, tiens, lui, Dan, c'est sympa. Et le copain d'un copain d'un copain, bon, c'est vraiment cool, quoi. Des gens complètement inconnus, je pense pas, enfin, de manière ou d'une autre, ça faisait, voilà, 10 ans qu'on faisait de la musique, bon, on avait tous notre réseau de copains, parce que ça, c'est bien aussi, quand on fait un financement participatif tout seul, on a un seul réseau de potes. Quand on fait déjà à 4 ou 5, on a 4 ou 5 réseaux de potes qui eux-mêmes réseautent, chacun de leur côté.
Mmh, bah oui.
Et voilà, on lance le chalut et il est beaucoup plus grand, quoi.
Et ça a marché, cet album, d'ailleurs?
Ouais, ça a marché.
On n'a même pas parlé de musique, c'est fou quand même.
Bah oui, oui. Non, ça a marché, on a réussi à l'avoir dans les temps, à avoir la production qu'on voulait, et puis à renvoyer toutes les contreparties comme prévu à ceux qui l'avaient financé.
Est-ce qu'on garde un contact après? Est-ce qu'il y a un lien qui se crée? Je ne sais pas depuis combien de temps ça s'est fait, cette opération pour vous, Benjamin, mais est-ce qu'après on se dit, tiens, de temps en temps, on envoie des infos à nos contributeurs, on leur donne des news du groupe, on garde un lien ou ça y est, c'est fini, maintenant vous avez fait l'album et c'est terminé?
On garde un lien un petit peu au début parce qu'un disque, il se voit aussi sur scène avec des concerts, donc on renvoyait les infos du groupe aux gens qui ont participé. Mais bon, le groupe étant un petit peu en sommeil maintenant, voilà, ça vit plus trop. Mais par contre, c'est vrai qu'on sait que c'est une petite communauté qu'on peut peut-être réactiver à un moment. Voilà, si on décide de relancer le groupe, on dira, bah tiens, vous aviez soutenu. C'est ce qui se passe ça. Est-ce que ça vous dit ou pas? Voilà.
C'est pas mal ça. Bah, c'est une chouette aventure, c'est une chouette histoire comme quoi la musique, hein, c'est vrai que ça marche bien pour le financement participatif, ou plutôt l'inverse, le financement participatif, ça marche bien pour faire de la musique. Merci d'avoir été avec nous, Benjamin, et peut-être qu'on se rappellera pour un 5e album quand vous serez réveillé de votre grand sommeil.
Avec plaisir.
À bientôt, au revoir.
Le soir sur France Bleu, on se dit tout.
C'est quoi le financement participatif? Vous vous posez certainement la question. Et bien après cette émission, vous serez incollable parce que jusqu'à 22h, on écoute des hommes, des femmes qui ont pu réaliser un rêve, un projet individuel ou collectif. Et nous sommes maintenant en région parisienne avec Muriel. Bonsoir Muriel.
Bonsoir Vanessa.
Est-ce qu'on peut dire que vous avez réalisé votre rêve grâce au financement participatif? Ou est-ce que c'est un peu fort le mot rêve?
Ah non, ça va, c'est pas trop fort parce que vraiment quand j'étais gamine, je voulais faire un livre, voilà, quand je serai grande. Et puis bah, grâce au financement participatif, c'est vrai que j'ai pu réaliser un rêve, celui de faire publier un livre.
Parce que ça coûte cher de se faire publier. C'est quoi finalement le financement? Il a servi à quoi pour vous, pour votre livre?
Oui, ça coûte cher en fait. Je ne savais pas du tout comment faire un livre. J'avais une idée. Je me suis renseignée. Je voulais qu'il soit comme ci, comme ça. Mais effectivement, ça m'a servi à payer en fait des illustrateurs pour que le livre soit simple à lire, sympa visuellement. Ça m'a servi à payer un imprimeur parce que forcément après il faut imprimer les livres et c'est très cher. Et puis bah, les envois, des contributions, tout ça, c'est très cher en fait. Donc le financement participatif m'a aidé à faire tout ça.
Mais vous êtes allé vers le financement participatif assez rapidement. Vous avez dit ça, ce sera la solution pour moi parce que j'ai pas les moyens, parce que je veux pas faire un prêt. Comment ça a cheminé dans votre tête?
Tout simple. J'étais déjà sur les réseaux sociaux en fait et j'avais vu un projet sur le même site qui s'appelle KissKissBankBank.
Oui.
Un nom un petit peu bizarre, mais ça fonctionne très très bien. J'avais vu un projet, c'était sur l'écologie que l'on abordait de façon positive. C'est Demain le film en fait. À l'époque, c'était déjà
exactement avec Mélanie Laurent.
Exactement et Monsieur Dion. Et forcément, bah, j'avais vu ce projet qui était super et je m'étais dit, mais pourquoi pas faire la même chose, entre guillemets, parler des jumeaux et plus particulièrement des parents de jumeaux de façon positive. Et donc, bah, l'idée est venue de là. J'ai d'abord travaillé mon projet et après je suis revenue sur ce même site que j'avais vu déjà à la base. En fait.
Comment ça se prépare? Est-ce qu'on liste tout, on se fait un budget prévisionnel et puis on se dit voilà j'ai besoin de temps, ou est-ce qu'on se met une somme à peu près approximative et puis advienne que pourra?
C'est difficile de quantifier ça. Ça a été vraiment une partie très 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 difficile parce que quand on connaît pas le milieu de l'édition, quand on connaît pas tous les détails. C'est très difficile. Donc oui, il faut vraiment faire un cahier des charges en fait, ni plus ni moins. Avec j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Et puis il y a des points qui sont très définis. On sait à l'avance à peu près combien ça va être. L'imprimeur en général nous fait un devis ou ce genre de choses. Mais il y a des choses aussi après qui sont très variables. Les illustrations, je ne savais pas combien j'allais en faire, combien ça allait. Il y a des choses comme ça où c'est, on fait un cahier des charges un peu approximatif. On sait qu'on va compléter de toute façon de sa poche. En général, il faut en avoir un petit peu quand même des sous de sa poche.
Oui, il faut pas compter que dessus pour partir sur un projet peut-être. Ça serait dangereux de faire ça.
Ah ouais, complètement. C'est illusoire de se dire, les gens vont me donner et puis je vais faire. C'est pas aussi simple dans la réalité.
Et les gens vous ont bien donné ou pas? Est-ce qu'on peut en parler? Combien vous avez pu récolter, par exemple, Muriel?
Comme je vous disais, ça a été difficile de savoir combien il fallait. Mais je l'ai quantifié en me disant qu'il fallait à peu près 2 800, en me disant que de toute façon, je compléterais. Donc c'est pour vous dire que ça coûte cher de faire un livre, mine de rien.
Oui, non, mais c'est bien de le dire aussi.
Oui, et l'idée étant novatrice, ça a beaucoup plu en fait, et c'est vrai que j'ai reçu à peu près un petit peu plus de 4 500 euros.
Ah ouais, vous avez carrément presque doublé votre somme prévisionnelle en fait.
Voilà, c'est l'objectif a été dépassé largement puisque j'ai eu 161% de l'objectif.
Waouh, c'est bien ça. C'est des gens que vous connaissiez ou pas forcément qui ont contribué à votre projet?
Non, du tout. Moi, je suis partie de rien. Je n'avais pas de blog, je n'avais pas de communauté, comme on dit sur les réseaux sociaux. Je suis partie de rien. J'ai juste parlé de mon projet sur des groupes de parents, sur mon entourage. Le plus que je pouvais, en fait. Dès que je pouvais en parler, j'en parlais.
Et ça a marché. Le bouche à oreille a marché. Et vous en êtes où, d'ailleurs, aujourd'hui, Muriel?
Plutôt pas mal, puisque je signe au Salon du Livre de Paris, pas plus tard que dimanche prochain.
Ah ouais, bien joué.
Sur le stand des éditions Récré à lire, R53.
Allez-y, profitez-en. C'est fou, parce que le rêve continue, là. C'est-à-dire que vous rêviez toute petite de faire un livre, le livre est fait, et là, vous allez le dédicacer, vous allez rencontrer votre public.
Mais totalement.
C'est génial. C'est un beau rêve qui se réalise. Et comme quoi, ça marche, effectivement. Après, comme vous dites, il ne faut pas tout miser sur le financement participatif. Il faut se mettre un petit peu d'argent de côté quand même avant de partir sur un projet. C'est mieux. C'est la sécurité.
Ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est un investissement très, très fort. Il faut vraiment être concentré dessus, vraiment, jour et nuit, j'ai envie de dire un petit peu.
Merci beaucoup, Muriel, d'être revenue sur votre histoire, sur votre parcours. Et puis, bon Salon du Livre à Paris. Alors, on espère qu'il y aura plein de monde et plein de ventes, surtout.
Merci, Vanessa. Merci.
Bonne soirée à vous.
Bonne soirée.
Au revoir.
Racontez-nous votre histoire. Ce soir, on se dit tout sur France Bleu avec Vanessa Lambert.
Et ce soir, on se dit tout sur un nouveau modèle économique, le financement participatif. Plus de 21 000 projets ont ainsi été financés comme ça l'an passé, soutenus par 2 600 000 financeurs, on peut les appeler comme ça. Mais qui sont ces financeurs? Comment les intégrer dans le projet ensuite? Comment on les remercie? Qu'est-ce qu'ils ont en retour? Est-ce que c'est juste un acte de générosité ou est-ce qu'on se sent un petit peu impliqué? Eh bien, on en parle ce soir sur France Bleu et on se dit tout, direction le Rhône, où nous retrouvons Émilien. Bonsoir Émilien.
Bonsoir.
Alors, le financement participatif, on le sait, a fait beaucoup pour l'agriculture et vous en savez quelque chose puisque vous êtes dans le milieu.
Oui, je fais du miel.
Du miel, d'accord, vous êtes apiculteur alors.
Oui, voilà, depuis 2013, je me suis installé en 2013 sur la ferme. Et l'hiver passé, j'ai eu un gros souci d'hivernage et j'ai perdu 200 colonies.
200 colonies, ça veut dire ça représente quoi? C'est les ruches complètement qui...
200 ruches vides en fait. On retrouve 200 ruches vides là au printemps. Donc ça fait une perte de 40 000 euros à peu près.
Waouh! Et là, vous êtes dit, il faut que je trouve une solution. Ça a été évident, le financement participatif, ou vous êtes dit, est-ce que c'est la bonne solution, vraiment? Comment vous êtes arrivé à ça?
On m'en a parlé, en fait. C'est, voilà, ma sœur, qui est technicienne apicole, justement, m'a dit que ça marchait plutôt pas trop mal et que ça permettait aussi d'impliquer un peu nos consommateurs, nos connaissances sur la ferme. Quoi.
Alors, votre sœur vous dit que c'est plutôt pas mal. Est-ce que ça marche, Emilien? Vous en êtes où, là, aujourd'hui?
Alors, moi, je suis à un peu plus de 200% de mon objectif.
Ah ouais, bien. Mais dites donc, depuis le début, c'est ce que je me dis, c'est que ça marche bien, en fait.
Mais en fait, j'avais mis un objectif qui était pour pouvoir racheter 10 ruches, en fait.
Ouais.
Sur les 200. Vous voyez un peu là. Et c'était l'idée de dire, à mes clients, vous m'aidez à racheter des ruches aujourd'hui, et dans 6 mois, vous venez à la miellerie et vous repartez avec un peu de miel.
Ouais, il faut donner quelque chose. Enfin, ça paraît évident pour vous que les gens qui vous aident, ils ont le droit à un petit quelque chose après.
Moi, c'est une exploitation qui marche, c'est un projet où je sais que ça. Enfin, voilà, j'ai déjà investi. Enfin, je sais où je vais, quoi. J'ai besoin de trésorerie tout de suite, mais c'est pas une création, c'est pas un saut dans le vide, c'est pas.
Oui, vous connaissez déjà le métier, vous connaissez déjà le milieu, vous avez déjà pratiquement tout pour y arriver. Il manquait juste la matière première, en fait.
Voilà, puis j'avais pas envie de reprendre un crédit, un gros court terme sur l'exploitation, ça fait beaucoup après.
Vous en parlez de ça avec votre banquier? J'imagine que sur l'exploitation, vous avez un banquier attitré. Comment il voit les choses, lui, sur le financement participatif?
Alors là, je ne l'ai pas demandé. À vrai dire, je ne l'ai pas demandé. D'un point de vue purement comptable, ça me paraissait compliqué de demander un emprunt. Je me suis endetté pour les bâtiments. Demander un court terme, forcément.
Non, mais moi, j'aimerais bien savoir ce que les banquiers pensent du financement participatif. Par exemple, c'est directement en concurrence avec leur travail.
Oui.
Non, faut pas lui dire, vous avez peut-être raison, faut peut-être pas lui en parler. Le principal, c'est que ça marche. Il y a combien de gens qui vous ont suivi, Emilien? Du coup, vous savez à peu près combien il y a de contributeurs avec vous?
150, là, je crois.
150, pas mal.
150, donc c'est une moyenne autour de 30 euros. Voilà, après ça va de 200... Enfin, voilà, il y a quelques personnes qui ont financé une ruche complète, donc 210 euros. Et puis, après, il y a des petites sommes, quoi.
Oui, mais c'est bien les petites sommes. Le prix d'un petit pot de miel?
Oui, voilà, à peu près.
C'est à peu près ça. Ouais,
voilà. Sur les toutes petites sommes, c'est surtout le fait de pouvoir venir à la miellerie pour des portes ouvertes, pour découvrir le travail d'apiculture, des ruches.
Il y a un côté pédagogique aussi derrière tout ça, oui. Emilien, merci d'avoir été avec nous, d'être venu nous parler de votre projet à vous. Et puis on espère que bientôt vous pourrez racheter toutes les ruches et repartir pour une activité tranquille, peinard. Et puis c'est important, on rappelle, hein, les abeilles, le miel, tout ça. Ça peut l'avenir aussi. À bientôt, Emilien.
À bientôt.
Au revoir.
Le soir sur France Bleu, on se dit tout.
Et jusqu'à 22h, on vous écoute nous parler du financement participatif. On l'a découvert depuis le début de cette émission. Ça sert à financer une sortie d'album pour un groupe, un livre, à reprendre une activité agricole. Mais vous allez voir aussi qu'on peut juste parler de solidarité et d'entraide. C'est l'histoire de Camille qui est avec nous en région parisienne. Bonsoir Camille.
Bonsoir.
Alors vous avez lancé une campagne de financement participatif pour vous acheter une voiture, mais pas n'importe quelle voiture. Expliquez-nous un petit peu votre histoire, Camille.
Alors effectivement, moi j'ai fait appel à la générosité des Français pour acheter une voiture adaptée à mon handicap. Donc en fait, je suis en situation de handicap physique, donc je me déplace en fauteuil roulant électrique. Et du coup, pour mon métier, pour exercer mon métier comme il faut, il me fallait une voiture pour pouvoir me déplacer plus facilement et même dans ma vie quotidienne. Mais le problème aujourd'hui, c'est que les voitures adaptées aux personnes handicapées coûtent très cher.
Ça coûte combien, dites-nous, tiens?
Alors, la mienne revenait à 73 000 euros.
Waouh!
Voiture plus aménagement. Donc
d'accord.
Le package.
Qu'est-ce qui coûte cher? C'est le fait de l'aménager spécifiquement pour monter avec votre fauteuil, c'est ça?
Exactement, parce qu'en fait, donc j'achète la voiture, une voiture lambda, enfin... que j'ai choisie parce que assez haute à l'intérieur pour que je puisse passer avec mon fauteuil, mais quand je l'achète, elle est comme votre voiture, enfin voilà, elle est une voiture le plus normale possible. Et après, en fait, une entreprise passe derrière pour entièrement la démonter. pour pouvoir l'abaisser pour que je puisse rentrer avec mon fauteuil.
C'est fou, il n'y a pas de voiture qui existe déjà, des voitures où on pourrait commander une voiture qui est déjà adaptée au handicap, en fait.
Non, parce qu'en fait, c'est quand même assez particulier. Bon, déjà parce qu'on ne va pas se cacher, ça n'intéresse pas les concessionnaires, parce qu'on n'est pas assez nombreux. Donc, ça leur reviendrait, eux, beaucoup trop cher de sortir une voiture de la chaîne d'usine pour la faire. Voilà, parce qu'en gros, donc, ça s'appelle ce qui coûte le plus cher, c'est le décaissement. Donc, c'est le fait de détruire la voiture pour la rendre plus haute à l'intérieur pour le passage d'un fauteuil. Mmh. Après, tout ce qui est aménagement du poste de conduite, ça revient cher aussi, mais c'est quand même moins cher. Et en fait, ça dépend des différents types de handicap, en fait. C'est vraiment du sur-mesure.
Oui. 73 000 euros, évidemment, quand on va voir son banquier et qu'on lui dit « j'ai besoin d'une voiture », ça passe pas toujours. Le financement participatif, c'était la seule solution pour vous ?
Ça faisait partie des solutions, en fait. Donc, j'ai commencer par faire appel aux droits qui me sont que j'ai avec grâce à mon handicap, donc à faire appel aux subventions publiques, pardon. Mm-hmm. Et après, après quand je leur demandais, d'accord, vous m'avez donné le plus que vous pouvez, c'est gentil, sauf que ça fait que un tiers, voire maximum la moitié de la voiture. Comment je fais après? Vers qui je me tourne? Et là, c'est le blanc total. Personne ne sait vers qui on doit se tourner. Enfin, il n'y a personne pour nous donner des solutions, en fait.
Et donc, vous l'avez trouvée toute seule, cette solution ?
Voilà, c'est ça. C'est un peu l'histoire de ma vie. D'un seul coup, je me suis dit, on en entend beaucoup parler, du crowdfunding, pour la musique, comme vous disiez, pour tout un tas de choses. Et du coup, je me suis renseignée, j'ai été voir sur Internet, et il y avait différentes plateformes. Donc, j'ai choisi, moi, une plateforme sur laquelle, en fait, c'était que des projets associatifs. Donc, il a fallu que moi, je m'associe à une association pour pouvoir porter ce projet. Et du coup, ça permettait que les personnes qui donnent, en fait, soient défiscalisées.
D'accord.
Donc, pour moi, parce qu'en fait, c'était quand même, surtout dans mon cas, c'est un projet personnel. Donc, c'est assez délicat de se dire, on va demander de l'argent à des Français, à des gens qui nous connaissent pas pour un projet. Enfin, j'avais rien à leur donner spécialement en retour, en fait. Mmh. Alors que quand on produit un album ou autre chose, on peut offrir
ça
le premier album.
Ça vous a gêné, entre guillemets ? Vous avez dit, c'est un peu compliqué de demander de l'argent comme ça ?
C'est ça. Oui, je me sentais pas légitime, en fait. Du coup, j'ai eu du mal à le faire. Mais une fois que je l'ai fait et qu'on voit les retours des gens, en fait, ça donne un coup de boost, en fait.
Qui a participé à votre financement ? C'est des gens que vous connaissez ou pas forcément ?
Pas forcément. La majorité, oui, sont des gens, enfin des amis d'amis ou des connaissances, enfin voilà, plus ou moins lointaines, des gens que j'avais pas revus depuis des années, qui ont vu passer mon projet sur Facebook, sur d'autres personnes qui l'ont relayé. Et du coup, ça m'a permis de reprendre contact avec des gens que j'avais pas vus depuis des années.
C'est génial, c'est le côté positif des choses.
C'est pas mal. Mais après aussi avec des personnes que je ne connaissais absolument pas, non, effectivement.
Qui ont été sensibilisées via l'association, peut-être.
Oui, via l'association, ou pas forcément. Ils ont vu passer le projet et ils se sont dit que c'était une bonne occasion, enfin que c'était une bonne action, je suppose, je ne sais pas.
Et donc, vous avez pu arriver à votre budget initial ?
Voilà, alors moi, en fait, à la base, donc, sur cette plateforme, donc, j'ai demandé, en fait, j'ai construit mon projet avec des personnes qui travaillaient pour cette plateforme. Donc, ils m'ont aiguillé, ils m'ont dit, nous, le temps moyen qu'on suggère aux porteurs de projet, c'est 50 jours. Et en 50 jours, on me proposait de demander 8000 euros. Parce qu'elle me disait, parce que moi, je voulais, en fait, que ça finance l'aménagement du poste de conduite. Et ça revenait à peu près à 12000, un peu plus de 12000 euros. Mais je lui ai dit, c'est ça. Et elle me dit, 12000 euros, ça fait une grosse somme quand même, en si peu de tant, ça, les gens vont pas forcément adhérer tout de suite, quoi. Donc elle me dit, déjà vous partez sur 8000 euros et puis si vous atteignez le plafond, on pourra toujours s'arranger pour augmenter ce plafond et créer des étapes. Parce que moi, du coup, j'avais fait sur un site qui s'appelait Arizuka et en fait, c'était sous forme de plafond. Une fois qu'on avait, par rapport aux autres sites sur lesquels j'étais allée, celui-ci, une fois qu'on avait atteint le premier plafond qu'on avait, nous, instauré, le reste de l'argent, même si on n'avait pas la totalité de notre objectif, l'argent était quand même pris en compte. Mmh. Alors que sur d'autres plateformes, c'est du tout ou rien. Si on n'atteint pas l'objectif, on n'a pas l'argent, même si on est d'accord. À 10 euros près, quoi.
Oui, effectivement.
Du coup, là, ce n'était pas le cas.
Et donc, vous êtes arrivé jusqu'à combien ?
Je suis arrivée jusqu'à 12 000 euros.
Ah ouais, bien vu.
Parce qu'en fait, ça a été très, très vite. Les 15 même, ouais, je crois, au bout de 15 jours, j'avais les 8000 euros, donc, ou même pas, ouais, une semaine et demie. Donc, du coup, on a remonté deux fois le plafond.
Mmh. Voilà. C'est plutôt encourageant, Camille. Alors, d'un côté, c'est un petit peu énervant parce qu'on voit bien qu'il y a un problème de société, oui, quand même. Mais de l'autre côté, on se dit, bah, les gens sont capables de donner de l'argent, même à quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. La solidarité, donc, elle existe.
C'est ça. Et c'est ce que je ressors de cette histoire, en fait. C'est vraiment ça. Et puis moi, du coup, après, j'entretiens le lien. J'ai créé une page Facebook, du coup, sur laquelle j'explique un peu, du coup, maintenant, après, une fois que j'ai eu ma voiture, tout le chemin que ça a pris pour la faire construire. Et ouais, effectivement, la solidarité existe encore, et heureusement.
Et c'est plutôt rassurant, d'ailleurs, sur l'état de la société actuelle, disons-le au passage. Merci exactement. Beaucoup, Camille. Merci d'avoir été avec nous ce soir sur France Bleu. Et bravo pour ce projet d'être allé jusqu'au bout et d'avoir eu le courage d'y aller, même si au départ, on a bien senti que c'était pas toujours évident. Mais vous l'avez bien fait. Vous avez bien fait de le faire. Voilà.
Merci beaucoup.
Bonne fin de soirée à vous.
Bonne fin de soirée.
Au revoir.
Vos témoignages, vos expériences. Ce soir, on se dit tout sur France Bleu avec Vanessa Lambert.
Le financement participatif, c'est le sujet dont se dit tout sur France Bleu. À quoi ça sert? Comment ça marche? Est-ce que les gens ont vraiment quelque chose de concret après? Écoutez, depuis le début, c'est plus que concret, hein, et on va continuer de vous écouter, nous en parler jusqu'à 22h. Direction la Bretagne maintenant avec Jeanne. Bonsoir Jeanne.
Oui, bonsoir.
On va parler de fromage avec vous. Vous avez lancé un financement participatif pour continuer à faire vivre l'agriculture bio, paysanne. Vous y tenez aussi à ce mot?
Oui, c'est vrai que c'est important de le préciser. C'est pour nous, c'est vraiment un projet de ferme qui s'inscrit autant dans le niveau du territoire forcément économique, en vendant tout en direct, et aussi donc le milieu paysan. Donc dans paysan, il y a un petit peu paysage, et donc c'est vrai qu'on essaye d'améliorer aussi l'environnement grâce à une agriculture biologique et d'entretien des terres du conservatoire du littoral, en fait.
Alors vous, c'est une fromagerie que vous avez montée, hein. Vous aviez les chèvres, il manquait finalement le matériel pour faire le fromage?
Oui, c'est ça. En fait, c'était une reprise de chèvrerie. Et donc, la fromagerie étant, la première fromagerie étant chez le cédant de la ferme, il fallait qu'on ait, avec mon associé, une nouvelle fromagerie. Donc, on a réalisé ce financement participatif.
Et ça s'est imposé à vous, le financement participatif? Vous vous êtes dit, c'est la meilleure façon aujourd'hui. Ça va avec ce côté aussi bio, le territoire, le côté ancré aussi, de se dire, allez, on se relève tous les manches et on y va?
Oui, c'est un peu ça. C'est l'esprit de solidarité, je pense. Donc, comme un peu, on fait un tout par rapport à la nature. On vit tous ensemble, et mine de rien, c'est vrai que le financement participatif, ça a vraiment mis en œuvre, en fait, cet esprit-là, quoi. On a réussi grâce aux gens qui nous ont suivis à réunir l'argent qu'il nous fallait pour une bonne partie hein, de l'argent qu'il nous fallait pour faire la fromagerie.
On en parlait tout à l'heure avec Muriel, je crois, elle disait il faut pas compter que là-dessus. Vous dites on a réussi à avoir une partie, c'est-à-dire que derrière, ouais, il faut quand même s'assurer financièrement. On peut pas que, oui, compter sur la collecte.
C'est vrai, après ça dépend des projets, mais nous c'était un projet qui, le budget était de 20 000 euros à peu près pour faire la fromagerie, et donc pour le financement participatif, on a mis 10 000 euros en plafond. On a eu finalement 13 000 euros. Donc ça a vraiment très bien marché.
Oui. Ça va faire 2 ans à peu près, hein, que vous avez lancé la collecte. L'objectif a été atteint. Ça veut dire qu'aujourd'hui tout va bien. Les chefs font du fromage. Le fromage est vendu.
Et oui. Donc la fromagerie est en marche, en fait, en fonctionnement. Et c'est vrai qu'on réalise les fromages, on les vend sur les marchés, on vend en direct aussi à la ferme. Et c'est vrai que les gens sont... Ça donne vraiment du corps un peu à la ferme aussi. Ça permet de se faire connaître, même si la ferme était déjà implantée et les fromages étaient connus. Ça
permet, c'est de la com' un peu, alors?
C'est vraiment le plus important, je crois, à gérer, c'est la communication, parce qu'on a que 2 mois finalement pour réunir la somme prévue, et c'est vrai que pour ça il faut pas lésiner sur les flyers, sur les affiches, sur les réseaux sociaux, les portes ouvertes aussi on a fait, et mine de rien ça a permis de créer une petite émulation autour de notre projet, et maintenant on revoit les gens qui nous demandent leur contrepartie, nous demandent des nouvelles des chefs qu'ils ont parrainés. C'était hyper, c'était vraiment très enthousiasmant en fait.
Il y a un lien, vous parlez des gens qui viennent vous voir, il reste quelque chose avec les contributeurs, il y a un lien qui se crée, même quand on les connaît pas, parce qu'on l'entend depuis le début de l'émission, parfois on connaît les gens, on a son réseau, puis parfois il y a des gens qu'on ne connaît pas qui ont un coup de cœur.
Ah oui, complètement, ça permet de rencontrer des gens qui ont fait plusieurs dizaines de kilomètres pour venir jusqu'à nous, pour découvrir le projet auquel ils ont participé. Et c'est vrai que nous, ça nous donne encore plus envie d'aller vers eux et de leur faire visiter la ferme et de goûter les produits, quoi.
Bon, on en profite pour faire un petit coup de pub, Jeanne. Dites-nous où vous êtes, où est-ce qu'on peut vous retrouver?
Alors, on est sur Plogoff. Donc c'est la ville, une commune qui est située sur la pointe du Raz dans le Cap-Cisin. Et donc c'est dans le Finistère Sud. Et donc on peut nous retrouver le vendredi matin sur le marché de Plogoff et le samedi matin également au marché d'Audierne. Sinon on vend aussi sur internet, etc. Il y a plusieurs biais pour nous trouver. Et la saison a démarré depuis 2 semaines.
Donc. Bah oui, c'est le printemps, c'est la saison préférée des chèvres.
C'est ça, exactement.
Merci beaucoup, Jeanne, d'avoir été avec nous et bravo pour ce joli projet. Et on se dit à bientôt alors sur France Bleu.
Oui, merci beaucoup à vous.
Merci,
aussi.
Au revoir.
Le soir sur France Bleu, on se dit tout.
Et jusqu'à 22h, on se dit tout. Vous écoute nous parler de financement participatif, comment ça marche, à quoi ça sert. Et on part tout de suite à Oyonnax rejoindre Samuel. Bonsoir, Samuel.
Bonsoir.
Alors, vous travaillez pour les éditions Sans Détour, on peut les citer, bien sûr, et vous faites appel au financement participatif, vous aussi. Pourquoi ce modèle économique aujourd'hui? Pourquoi ça marche et pourquoi vous y faites appel, vous aussi?
Eh bien, Sans Détour, on fait du jeu de rôle, nous, principalement. Et l'intérêt, il est pour une entreprise, il est avant tout économique. Le fait de faire appel au financement participatif permet d'avoir une avance de trésorerie qui est simplement vitale pour toute société. Et puis, le fait d'avoir prévendu des ouvrages, comme c'est le cas, parce que nous sommes des livres de jeux de rôle, cette prévente permet quand même d'avoir de la bonne visibilité. Ça, c'est le volet économique. Et puis, pour le public, en fait, ça permet de proposer avant l'édition des ouvrages au public, aux joueurs, qui vont pouvoir donner leur avis et on pourra comme ça ajuster la proposition, ajuster les contenus, compléter l'offre ou bien retirer des choses qui ne les intéressent pas en fonction des retours que nous aurons en live sur les forums.
C'est pas que de l'argent, en fait.
Non, il y a les deux aspects. Mmh. Il y a un aspect financier qui est évidemment indéniable, mais aussi l'aspect création. On est dans du jeu de rôle, on est sur beaucoup de création et de l'ajustement possible. Et le financement participatif, permet ça, permet d'ajuster l'offre en fonction des commentaires des joueurs.
Est-ce que les jeux et les jeux de rôle s'y prêtent particulièrement bien au financement participatif?
Alors, oui, tout à fait, parce que, d'une manière générale, les jeux de rôle sont composés de suppléments. On va trouver des écrans, on va trouver des scénarios, des aides de jeu. Ce qui permet de proposer plusieurs offres et plusieurs possibilités de financement de la part des joueurs. Donc ça, ça permet aux joueurs et aux pledgers de choisir un petit peu ce qu'ils veulent. On peut rajouter des illustrations, on peut faire des choses. Le jeu de rôle pour ça permet tout ça. On n'est pas sur une offre assez rigide. On peut compléter et très très largement les offres que nous avons dans le jeu de rôle. Et puis ça demande beaucoup de travail. Alors en amont du projet et pendant la durée de projet, donc le financement permet aussi de collecter de l'argent pour pouvoir évidemment en amont c'est difficile parce qu'il faut être capable de proposer d'indiquer que le projet déjà a été lancé pour être crédible auprès du public, mais également et puis pendant toute la vie, pendant la fin de vie du développement de projet, on a cette visibilité, cette tranquillité entre guillemets d'esprit, encore une fois économique. Parce que on a cette levée de fonds, on sait où on va, c'est quand même rassurant.
Qui sont les contributeurs? C'est généralement des joueurs qui sont intéressés et qui misent sur un jeu de rôle?
Oui, tout à fait. Essentiellement des joueurs, beaucoup de meneurs de jeu évidemment, mais beaucoup de joueurs. Le jeu de rôle fait appel à l'imaginaire. Et donc la grande faculté du financement participatif, c'est de proposer des visuels, de proposer des pièces d'immersion, des aides de jeu, des produits dérivés qui vont permettre de jouer. Et donc ça, c'est des choses qui parlent vraiment aux joueurs. Les joueurs peuvent se rendre compte, imaginer par avance ce que sera le produit qu'ils vont acheter. Donc le jeu de rôle vraiment est adapté à ces éléments.
Ça veut dire que on sent si la participation et le financement montent vite, on sent que c'est un jeu qui va plaire et qui va marcher. Il y a déjà une tendance.
Oui, tout à fait. Bah, c'est une espèce d'étude de marché en fait qu'on fait en live. Nous, on fait principalement l'appel de Cthulhu. Donc c'est un titre phare hein, pour le jeu de rôle. C'est quelque chose d'extrêmement réputé qui vient des États-Unis, qui est traduit en France. On a à travers ce financement participatif tout de suite l'intérêt des joueurs. Alors, des joueurs et la question tout à l'heure concernant le public joueur ou pas. Lorsque nous avons lancé le livre de base, la boîte de base de l'appel de Cthulhu, nous avons eu énormément de fans de Lovecraft. C'est l'auteur américain qui a écrit le mythe de Cthulhu, qui se sont intéressés à notre production par curiosité, pas forcément parce qu'ils étaient des joueurs. Voilà. Donc ça permet aussi de contacter via ces publicités-là, via ce dispositif, d'autres personnes et les intéresser. Alors, faire découvrir l'univers aux joueurs, mais l'inverse est vrai, faire découvrir aux fans de Lovecraft le mythe de Cthulhu.
Est-ce que ça permet aussi à des jeux de sortir là où il est resté un petit peu bloqué dans la tête de leur concepteur ?
Oui, tout à fait. Tout à fait. Ça permet surtout de rassurer les créateurs, je pense. Le fait, alors nous évidemment on est en entreprise, on est un petit peu différent parce que nous avons beaucoup d'équipes de rédaction. Mais je pense que pour une étude, pour un jeu qui a besoin de sortir, c'est rassurant pour le créateur. L'auteur, un jeu de rôle doit être écrit. Le rédacteur, l'auteur a toujours cette motivation, cette volonté d'écrire. Il avait déjà, avant le financement participatif, ça fait 30 ans qu'on écrit des jeux de rôle, il y a des milliers de jeux d'écrits. Les joueurs avaient toujours cette motivation, les écrivains avaient cette motivation. Le financement participatif leur donne de la visibilité, leur donne du crédit et l'encouragement véritablement à avancer dans leur projet et aller au bout de la démarche. C'est quelque chose d'assez long. Le fait de savoir que le public...
Ouais, suit derrière, c'est génial ça. Ouais. Ah ouais. C'est vraiment une autre façon d'envisager la création, la commercialisation, le financement. C'est assez génial de pouvoir en parler aussi ce soir. Merci beaucoup Samuel d'avoir été avec nous. Et on vous souhaite plein de beaux nouveaux jeux et plein de réussites aussi avec les éditions. Je les recherche, je l'avais sous les yeux.
Les
éditions sans détour, voilà.
Les éditions sans détour,
c'est ça. Merci Samuel, bonne soirée.
Racontez-nous votre histoire. Ce soir, on se dit tout sur France Bleu avec Vanessa Lambert.
Le financement participatif, c'est le sujet dont on se dit tout ce soir avec des projets, des réussites, des attentes et puis des gros coups aussi parfois, on va parler de ces campagnes qui dépassent toutes les espérances en compagnie de Cécile à Agen. Bonsoir Cécile.
Bonsoir.
Alors vous avez lancé une campagne de financement participatif pour un calendrier. On était en pleine polémique de la réforme des collèges. Racontez-nous cette histoire un peu.
Oh, alors c'est une idée un peu farfelue au départ. On cherchait à défendre le latin et le grec qui étaient gravement mis en danger par les premiers projets de réforme du collège. Et on s'est dit que plutôt que de continuer à manifester, on allait le faire... de façon traditionnelle, en fait, on allait le faire avec humour pour montrer que non, les langues anciennes ne sont pas mortes, non, les professeurs de latin et de grec ne sont pas des vieux croutons décrépits qui passent leur temps à faire rabâcher des déclinaisons à leurs élèves. Donc ça s'est passé sur Facebook, en fait. Hein, j'avais lancé l'idée avant l'été, et puis plusieurs personnes, des profs de lettres classiques, mais aussi des profs d'autres matières, des anciens élèves, des étudiants se sont joints à cette idée. Et donc, sans nous rencontrer, nous avons monté ce calendrier en échangeant des photos, en réfléchissant à des textes, en essayant de trouver les slogans les plus farfelus qui pouvaient illustrer les inepties de cette réforme du collège 2016, en particulier avec des thèmes d'enseignement pratique interdisciplinaire complètement fous. Voilà.
Et le financement participatif, il entre où dans le processus, la fabrication du calendrier, c'est ça ?
Alors voilà, on pensait en vendre quelques-uns, quoi, une petite centaine. C'était histoire de garder le moral en fait au départ. Donc on avait lancé un projet sur Ulule, une campagne sur Ulule pour, je crois, même pas 100 exemplaires. Je crois qu'on en avait lancé à moins. Et finalement, juste avant la rentrée. Il y a plusieurs médias qui se sont intéressés à ce projet. Donc, on a eu des articles dans Le Parisien, dans Le Figaro, on est passé sur France Info aussi.
Ah ouais.
Et à partir de là, ça a explosé. À partir d'un article du Figaro, en particulier de Caroline Beyer, ça a explosé. Et en quelques jours, on est passé d'une cinquantaine de préventes à 2600.
Waouh. Et là, on se dit, oh là là, mon Dieu, on gère plus du tout ce qui se passe là. Ça vous dépasse un peu.
C'est artisanal, quoi. On emballait nous-mêmes les calendriers, etc., quoi. C'était ça le projet. Donc là, 2600 calendriers à expédier partout dans le monde.
C'est génial. Vous êtes contente au final?
Ah oui, c'était fantastique, là, complètement inattendu. Puis alors, du coup, notre objectif de faire parler du latin et du grec et des dangers de la réforme du collège était complètement atteint, là. Hein.
Avec du recul, c'était un acte plus politique qu'artistique, là, pour vous, clairement.
Oui, clairement. Le premier calendrier, c'était clairement politique, oui, effectivement. Oui.
C'est-à-dire qu'il y en a eu un deuxième, alors?
Militant. Donc, il y en a eu un deuxième, là, pour. Donc, c'était des calendriers sur l'année scolaire. Donc, le premier, c'était 2015-2016. Donc, on en a fait un 2016-2017. Donc, il y a eu un petit peu moins de succès parce que le soufflet était un petit peu retombé. Oui, mais quand même, on a atteint nos objectifs de vente. Et là, pour le coup, on avait recherché un peu plus une création artistique. Oui, quand même.
Avec des belles photos, des plus belles photos, parce que c'est déjà très belle, hein, les premières.
Oui. Ben alors là, pour le deuxième, en fait, on a repris des tableaux ou des sculptures et on a mis nos visages dessus.
D'accord.
Voilà. Et donc, ce qui nécessite un gros travail quand même de la personne qui l'a fait. Et puis, on a inventé des textes, on a raconté la mythologie un peu à notre façon. Voilà.
Alors, comme il y a eu un énorme succès sur ce projet, Cécile, à un moment donné, vous n'êtes pas retrouvée avec un surplus d'argent? Vous n'êtes pas dit, mince, c'est ce qu'on va faire de tout cet argent?
Eh bien, on a créé une association.
Du coup, pas mal.
Au départ, on était juste quelques personnes, une douzaine de personnes à s'être lancées là-dedans sans trop réfléchir à un avenir, parce qu'il n'y avait pas forcément d'avenir pour nous. Et du coup, on a créé une association, l'association Les Immortels, qui a pour but donc la promotion et la défense des langues et cultures de l'Antiquité. Du coup, cet argent nous a permis donc à fabriquer le deuxième calendrier, à avancer les frais en fait d'impression et tout ça, puisqu'au départ ça devait couvrir le prix de vente, devait juste couvrir les frais d'impression, de fabrication du premier calendrier. Et puis ça nous permet de faire du mécénat aussi, de soutenir d'autres associations comme Arrête ton char, comme l'Arrêt la Bord, l'association des profs de langues anciennes de l'Académie de Bordeaux, l'Arrêt la Claire pour l'Académie de Clermont-Ferrand. Voilà.
Il y a du fond derrière quand même.
Oui,
hein,
c'est ça.
Et ben, merci beaucoup Cécile d'avoir été avec nous et bravo donc pour ces calendriers des immortels. Et on va surveiller ça de près pour espérer en avoir un tous les ans maintenant.
Mais on va voir, on va peut-être changer de formule un petit peu, mais on y réfléchit. Mais je vous remercie de m'avoir appelé.
Merci Cécile, bonne soirée à vous.
Merci vous aussi.
Au revoir.
Au revoir.
Le soir sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
Et on va terminer cette émission consacrée au financement participatif par un petit verre de vin et un bon bouquin. C'est le projet de Jean-Bernard qui est avec nous en Provence. Bonsoir Jean-Bernard.
Bonsoir.
Un bar à vin librairie, c'est votre projet et financé en partie grâce au crowdfunding?
Oui, tout à fait. Donc c'est un bar à vin café littéraire et financé à hauteur de 5000 euros via Ulule, donc avec du crowdfunding.
Alors 5000 euros, ça représente quoi sur votre budget total?
Sur le budget total, c'est, on va dire, un plus, parce que ça me permet d'acheter en fait une machine supplémentaire qui sera distributeur de vin au verre.
J'ai pas compris, pardon.
Les 5000 euros vont servir en fait à un plus. Ça va nous servir à acheter en fait une machine qui servira à faire des vins au verre.
Ah d'accord. Ah oui, c'est marrant ça, cette machine.
Un distributeur, voilà.
Et ça, vous vous êtes dit, c'est le petit plus, on n'a pas forcément envie d'investir dessus au départ, mais si ça peut marcher, on le fait.
Exactement, c'était prévu pour une deuxième étape de financement prévue après le lancement. Et effectivement, suite à des discussions avec PAI, donc c'est PAI Dex Initiative et BGE, qui sont des associations qui aident en fait les créateurs d'entreprises. Ils m'ont conseillé de faire un financement participatif et effectivement de pouvoir faire de l'optionnel avec ce financement supplémentaire.
C'est génial parce qu'aujourd'hui les associations qui aident les nouveaux créateurs de projets partent sur ce système économique là.
Exactement.
C'est vraiment rentré dans les mentalités.
Exactement, ils ont des partenariats, ils nous aident à monter les dossiers directement sur les sites. Et effectivement, ça permet de gagner du temps, d'avoir des business plans qui tiennent la route, etc.
Pas mal ça, hein.
Ah oui, c'est vraiment très bien. Ouais.
5000 euros, vous les avez récupérés facilement, ces 5000 euros. Comment on vend le projet, entre guillemets, à des gens qu'on ne connaît pas?
Eh ben, c'est un peu compliqué, mais en fait, il faut être vrai. Moi, j'ai simplement décrit le projet, décrit pourquoi j'avais besoin de ce financement participatif. Et puis ensuite, il y a tout un système de parrainage, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va travailler avec des amis et puis faire connaître ce projet via Internet pour qu'on puisse avoir un maximum de visibilité. Et à partir du moment où on a touché donc plusieurs cercles, le cercle de la famille, des amis, on commence à toucher des cercles de personnes qui ne me connaissent pas. Et donc voilà, à partir de ce moment-là, on essaye de faire un peu boule de neige.
Et est-ce que vous avez dépassé la somme que vous étiez imaginée ou est-ce que c'est resté vraiment sur les 5000 euros de base ?
On est à 115%, on a un peu dépassé. On a atteint les 5000 7 jours avant la fin du financement. Je suis ravi, je suis content. Très bien.
Alors, on a entendu depuis le début de l'émission qu'il y a souvent des contreparties aussi. Les gens qui ont participé, ils ont droit à un petit quelque chose chez vous aussi ?
Oui, oui, bien sûr, il y a un système de contrepartie et en fonction de la somme qui a été investie, il y a effectivement une contrepartie, donc une ou plusieurs, hein, bien sûr. Et ça va d'un simple merci sur Facebook ou par mail personnalisé. Pour les gens qui donnent 5 euros, ça peut aller jusqu'à des caisses de vin en fonction de la quantité de la participation.
Est-ce que vous en avez parlé avec des financiers ? Alors là, je pense aux banquiers, par exemple. J'imagine que vous avez un banquier sur votre projet. Comment ils voient les choses, les banquiers, sur ce financement participatif, cette nouvelle façon d'envisager le commerce aujourd'hui et des projets comme celui-ci ?
Pour eux, c'est exactement comme moi je l'ai vu, c'est-à-dire que ça reste de l'optionnel. Il y a quand même de grandes chances, quand on a bien préparé son projet, d'atteindre l'objectif qu'on se fixe. Par contre, faut pas être trop gourmand, faut pas demander 10 000 euros ou 15 000 euros sur un projet qui potentiellement n'intéresseront pas énormément de personnes.
Là, si vous aviez mis votre projet total en financement participatif, ça l'aurait pas fait.
Non, clairement. Là, il y aurait eu, le besoin est beaucoup trop important. Ouais.
Oui, puis il n'aurait peut-être pas vu ça aussi d'un très bon œil, le banquier en l'occurrence.
C'est sûr.
Il faut faire travailler tout le monde, même si c'est une nouvelle façon d'envisager les choses avec une certaine solidarité aussi entre contributeurs, mais quand même. Le projet, c'est pour quand alors, dites-nous ?
Alors le projet, il est en fin de travaux, il me reste encore quelques travaux et surtout l'aménagement, donc ça va encore prendre un petit peu de temps. Mais on peut dire que pour le 20 avril, ce sera ouvert.
Le 20 pour le 20, c'est bien ça.
Voilà, parfait.
Est-ce que quand on a profité du financement participatif à un moment donné, on regarde aussi et est-ce qu'on devient contributeur à son tour ?
Oui, c'est vrai que ça, en passant du temps en fait sur Ulule, on s'aperçoit qu'il y a quand même des créateurs d'entreprises qui sont dans le même cas que moi, qui n'ont pas forcément tous les financements possibles dès le départ. La création d'entreprise en France, c'est un peu compliqué, mais bon, quand on est motivé, on va jusqu'au bout. Effectivement, si on peut donner des coups de main et participer, ne serait-ce que symboliquement sur un futur projet, ça reste effectivement quelque chose que je vais faire et que je regarde déjà.
Bon, Jean-Bernard, on vous souhaite plein de succès avec votre bar à vin librairie, comme ça, on le dit comme ça.
Bar à vin, café littéraire.
Café littéraire, ouais, c'est plus joli encore. C'est voilà. Où exactement ? J'ai dit que vous étiez en Provence, mais je ne sais même pas où exactement.
Alors, ce sera situé à Aiguille. C'est un petit village qui est juste à côté d'Aix-en-Provence.
D'accord, avec le soleil qui tape sur les vignes pour donner des très bons vins.
Exactement.
En plus. Merci beaucoup Jean-Bernard et plein de réussite à vous alors.
Merci à vous.
Au revoir.